Bon, c'est depuis hier qu'on se prépare à vous parler de crédit, de l'accès au crédit. Il y a eu cette série dans la presse, donc, sur les récidivistes des faillites. Et est-ce qu'on doit ou pas limiter, resserrer, disons, l'accès au crédit pour les citoyens?
Et Paul, je vais te surprendre. Moi, je vais dire non.
Ah.
Laissons les gens être libres, comme dirait un animateur de Québec, liberté! Non, mais pour vrai, dans le fond, premier élément important, l'accès au crédit, c'est un coussin temporaire qui donne de la flexibilité. Donc, que tu sois riche, pauvre, bien nanti, classe moyenne, le moment où les flux monétaires entrent dans ton compte puis sortent du compte ne sont pas toujours coordonnés. Puis, c'est le fun d'avoir accès au crédit pour dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai pas besoin de m'inquiéter. Si le prêt hypothécaire va passer, ma paye rentre le 2 ou le 3, mon client va me payer le 5. » Mais c'est donc, ça, là, c'est un pouvoir. Puis c'est le pouvoir de dormir en paix puis pas faire de l'anxiété administrative. Puis si on enlève la possibilité au moins nanti d'avoir une marge de crédit ou peu importe parce que l'accès au crédit est trop facile, ben on est en train de dire il n'y a que les riches qui vont pouvoir profiter ou les mieux nantis du système économique. Deuxième point, l'effet de levier. Moi, Paul, toute ma vie, j'ai profité de l'effet de levier. C'est-à-dire m'endetter pour faire du rendement. J'ai fait ça longtemps. Je le fais depuis une dizaine d'années sur mon immeuble. J'ai un deuxième immeuble. Je vis comme ça. Quand je regarde mes dettes, je fais de l'anxiété. Quand je regarde les actifs moins les dettes, ça va. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu fais de l'argent avec l'argent des autres. Évidemment, c'est pas toujours un grand succès. Des fois, on fait des gains, des pertes. Mais si je suis capable de placer mon argent à 6-7% en bourse, puis que j'ai payé 3, ben, laisse-moi vivre, tu sais. Alors, si on laisse juste les mieux nantis de ce monde faire de l'effet de levier, qui va lancer des entreprises? Ben, les mieux nantis.
Mm-hmm.
Après ça, il y a le point d'accès à l'économie.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, le point d'accès à l'économie, c'est de dire, pour être un citoyen en l'an 2000, je vais dire 2020 maintenant, faut que tu aies accès à l'économie. Pour avoir accès à l'économie, faut que tu aies accès aux outils économiques. Donc, à carte bancaire, à carte de crédit, à marge de crédit. Sinon, t'es pas un citoyen en part entière. Faut que tu puisses te bâtir un autre dossier de crédit, un ADN de client. Donc, si on restreint l'accès au crédit à ceux qui ont du cash par rapport à ceux qui n'en ont pas, ben on est en train de dire à ceux qui ont eu des échecs, vous pouvez pas vous faire une ADN de crédit. Donc, je vais pas prôner du haut de mon privilège qu'on doit limiter au crédit aux gens qui ont les moyens d'en avoir. Je vais dire, allons-y par la formation, par l'éducation, par la mise en garde, par la connaissance, plutôt qu'empêcher. Et je vais te citer un grand penseur, un philosophe, Mark Twain, qui dit, c'est pas parce qu'on empêche quelqu'un d'utiliser un marteau qu'il n'a pas besoin de planter un clou. Tu comprends?
Je comprends, mais moi, là, ce qui me dépasse, c'est les cas où les gens là viennent de faire faillite, sont encore, comme on dit, en train de vivre leur faillite, puis se font offrir des cartes de crédit avec des montants, là, des limites quand même, je dirais pas hyper élevées, là, mais je sais pas, je trouve que...
Mais je compare ça au gars qui a eu 4 pontages, puis qui s'en va fumer un paquet de cigarettes après.
Ouais.
Est-ce qu'on va empêcher aux gens qui ont eu des pontages de manger de la poutine puis de fumer? C'est le libre droit. Après ça, tu dis, ouais, mais comme société, on paye le prix de ça. Je dis, ouais, mais il y a la liberté aussi. C'est compliqué quand
c'est
même.
Sûr.
Hein?
C'est sûr.
Puis, tu sais, est-ce qu'on veut enlever des outils à des gens de la vie commune? Imagine-tu, pas de carte de crédit aujourd'hui, là? Tu veux acheter quelque chose sur Internet? Ah, t'as pas de carte de crédit, c'est de valeur, hein? Tu sais, tu veux acheter un PayPal, on n'a pas de cash, c'est pas grave. Ah, mais j'ai mon débit, fonctionne pas, la puce fonctionne pas. Avez-vous votre carte de crédit? Tu sais, la carte de crédit, c'est quand même une alternative de paiement. Mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'une carte de crédit, t'en as deux. Une pour ta compagnie, puis une personnelle. Si t'as pas de compagnie, t'en as juste une. Si t'en as 6 puis des magasins à rayons, il est peut-être là le problème.
Oui, parce que là, les taux d'intérêt des magasins à rayons, c'est assez spectaculaire. C'est plus élevé.
Puis deuxièmement, tu sais, quand t'es rendu à 6-7 cartes de crédit, pose-toi des questions. J'ai pas 8 marteaux dans mon garage.
Non.
J'ai juste un clou à planter.
Parlons du pétrole saoudien, la société pétrolière de l'Arabie saoudite d'Aramco,
oui.
Qui est entrée sur le marché boursier.
Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que le royaume, dans le fond, a une société, si tu veux, un équivalent de société d'État, si on veut, et c'est entré en bourse. Et on voulait que ça atteigne de valeur boursière 2000 milliards de dollars américains. Et pour ça, évidemment, il y a plein de gens au Royaume-Uni qui ont commencé à investir et c'est allé en bourse. Et c'est tellement important comme compagnie que ça a un impact majeur sur la bourse saoudienne, si bien qu'elle est montée dans le rang des bourses. Alors la question, nous comme investisseurs là, et nos investisseurs institutionnels, peuvent-ils ne pas mettre le pétrole dans un portefeuille équilibré si le pétrole est rendu tellement important au niveau boursier qu'il doit être pris en considération si on veut acheter l'indice mondial? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on n'arrête pas de se vanter dans notre vertu de sortir du pétrole dans nos placements. on continue à en consommer quand même, là, du plastique puis des voitures. Mais de l'autre côté, dans nos placements puis nos dirigeants, maintenant que le placement privé est devenu un placement boursier puis qui est très important dans le poids boursier, on peut se dire, est-ce que les gens peuvent vraiment délester le secteur pétrolier pour l'instant d'un portefeuille équilibré mondial? La réponse, est, la question est bonne. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que vous, comme consommateur ou comme investisseur, vous êtes prêt au nom de votre vertu d'avoir de l'air vert et sacrifier du rendement ou sacrifier de la couverture de rendement pour le bien de l'autre et le bien commun? Plusieurs vont dire oui, mais en même temps, quand tu vas leur dire « OK, peux-tu prendre ta retraite à 63 ans? » La réponse va être non. Donc, l'investisseur quotidien se drape dans le bio, se drape dans le vert, se drape dans la voiture électrique, mais de l'autre côté, demande à son régime de retraite de faire du rendement. Et pour faire du rendement, Paul, il y a trois raisons. Un, t'as fait de l'argent sur le dos des autres, donc t'as demandé à des travailleurs de travailler pour toi. Deuxièmement, t'as exploité le surplus du consommateur, c'est-à-dire que t'as fait payer à un consommateur un fort prix pour quelque chose qui coûtait pas si cher que ça à fabriquer. Ou, t'as pollué sans payer la valeur de la pollution. Alors, dans votre position fœtale ce soir, avant de dormir comme investisseur, demandez-vous, est-ce que je veux faire du rendement ou être en paix avec moi-même? Et si tu veux faire les deux, ben t'es mieux de te fermer les yeux.
Oh, ça finit par une belle rime et je
c'était
te souhaite...
C'était poétique.
Oui, très bien. C'est bon quand tu verses dans la poésie pour imager l'économie. Merci. Salut,
poète
à demain.
De l'épargne.
Le poète, oui. 7h21.